Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune, bonjour les adultes, bonjour les enfants, bonjour à vous qu'on connaît bien et bonjour à vous qui êtes peut-être de passage ce matin parmi nous. Soyez vraiment tous les bienvenus ici dans cette salle et puis chez vous, dans votre salon, dans votre cuisine, peut-être dans le jardin, je ne sais pas, où vous nous regardez pour ceux qui sont en ligne. Bienvenue à tous. Ce matin, c'est un culte découverte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un culte découverte? C'est un culte qui sera un petit peu différent, dans le sens où on va faire attention à comment est-ce qu'on dit les choses, comment on fait les choses. On va essayer de faire que tout le monde comprenne ce qui se passe dans ce moment. On veut que les gens qui nous visitent, peut-être pour la première fois, des amis, des voisins, des gens de passage, puissent être intégrés à ce qu'on vit ici ce matin. Mais ce n'est pas un culte qui va être non plus complètement différent de ce qu'on fait d'habitude. Vous verrez, ceux qui ont l'habitude de venir ici, vous n'allez pas être complètement dépaysés non plus. Parce que le but, c'est que si vous aimez ce que vous allez vivre ce matin, eh bien, que vous puissiez revenir dimanche prochain, et puis, ça sera, vous verrez, plus ou moins la même chose quand même. Mais voilà, on va faire attention à comment on fait les choses. Et puis, c'est la deuxième fois qu'on fait ça. On est encore un petit peu en train d'apprendre. Et vos retours sont les bienvenus. Hein, si vous dites, ok, j'ai un peu compris le concept, mais vous pourriez peut-être faire ça encore un peu autrement, ou alors, tu as parlé de ce mot bizarre, j'ai rien compris, ben, venez vous nous le dire, parce que des fois, on est tellement plongé dans notre monde chrétien, évangélique, qu'on utilise des mots qu'on pense que tout le monde comprend, et ce n'est pas toujours le cas. Donc, venez nous le dire, et c'est volontiers qu'on prend ça en compte, et puis qu'on en discute avec vous. Quelques annonces avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc sachez qu'à la fin du culte, le café est offert. Donc ne partez pas trop vite. Parfois, je suis frustré parce que je suis là à la technique au fond, puis je vois des gens qui passent et je les vois pour la première fois et je me dis, ah, je suis allé les saluer, je vais essayer de savoir, s'ils sont là de passage. Et puis, à la fin, ils s'échappent et puis, mince, je n'ai pas pu les voir. Donc, si vous êtes comme moi, un introverti, je vous comprends. J'ai aussi envie de m'enfuir quand je suis au milieu de gens que je ne connais pas bien. Mais voilà, restez avec nous, prenez un café. D'ailleurs, il n'y a pas que du café, parce que moi, je n'aime pas le café. Donc, il y a aussi du thé, du sirop, des petits biscuits. Ayez le courage de rester quelques instants. Et puis, pour vous qui avez l'habitude d'être ici, eh bien, regardez un petit peu autour de vous. Peut-être qu'il y a des gens avec qui vous n'avez encore jamais discuté. Et je vous encourage à aller aussi vers ces gens-là. C'est vrai qu'on aime bien retrouver nos amis le dimanche matin, on a nos habitudes. Mais voilà, faisons l'effort aussi d'aller vers ceux qu'on connaît peut-être un petit peu moins bien, pour les accueillir parmi nous. Jeudi passé, nous avons vécu un très bon temps pour le jeûne Genevois. Voilà, on a fait des gâteaux aux pruneaux, on a eu un apéro, on a bien mangé ensemble. Alors, certains diront, pour un jeûne, on a vraiment bien mangé. Voilà, c'était comme ça. Mais vraiment, on a vécu un bon temps. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que j'aimerais là aussi vous encourager à venir à ces temps un petit peu hors dimanche matin, hors activité traditionnelle. C'est des temps où on apprend aussi à se connaître autrement, autour d'un repas, autour d'un jeu, on discute avec des gens avec qui on ne discute pas forcément d'habitude. Et c'est vraiment, vraiment enrichissant pour nous en tant que communauté. Donc voilà, venez à ce genre d'événement, ça vaut vraiment le coup. On a passé un super temps jeudi. Pour tous ceux qui étaient là, je pense qu'ils seront d'accord pour dire que c'était vraiment chouette. Ce jeudi, à 19h, le conseil de notre église se réunit. Alors merci de prier pour eux, ils en ont bien besoin, ils ont toujours un agenda bien chargé, ils ont une grande responsabilité vis-à-vis de cette église, et ils apprécieront vraiment qu'on pense à eux aussi dans la prière. On vous rappelle aussi la formation formation atelier culte qui se déroule en ce moment. Il y a déjà eu un premier volet de cette formation qui s'est passé samedi passé. De nouveau, très bon retour, formation de très grande qualité. Et sachez que même si vous n'avez pas pu être là samedi passé, c'est quand même encore possible de venir pour les deux prochaines dates, qui seront le 17 septembre et le 1er octobre, donc à chaque fois des samedis. Donc n'hésitez pas, si ça vous titille, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, avec David Porter, qui est ici parmi nous, vraiment une formation de qualité à suivre. Vendredi, dès 17h, c'est le catéchisme, le caté, pour les 11 à 15 ans. Alors, si vous avez des ados chez vous qui ne vont pas encore au catéchisme et que ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à vous approcher des pasteurs à la fin du culte. Voilà, vos ados sont vraiment les bienvenus, même s'ils ne font pas partie de cette communauté. Vous pouvez aussi amener des amis, si vous avez envie que, voilà, qu'ils puissent voir un peu à quoi ça ressemble. Ils sont vraiment les bienvenus, donc n'hésitez pas. Merci aussi pour votre générosité d'avance. Il y a différents moyens de donner pour que cette communauté puisse exister. Donc vous pouvez donner par Twin, par bulletin de versement. Il y a aussi une petite corbeille là-bas au fond si vous voulez mettre de l'argent. Mais sachez que si vous êtes de passage parmi nous, il n'y a vraiment aucune obligation. Voilà, cette communauté vit des dons qu'elle reçoit de ses membres. Et puis, on vous remercie pour votre fidèle générosité tout au long de ces années. Et finalement, les pasteurs, nous en avons deux dans notre communauté, sont à disposition après le culte, mais aussi tout au long de la semaine. Si vous avez envie de partager quelque chose, de poser une question, de prier, n'hésitez pas, ils sont vraiment là pour ça aussi. Donc voilà, contactez-les et puis utilisez ce service qui est là aussi pour vous. Ah, il y a un gars qui me ressemble un peu là. J'ai un frère jumeau. Je pense que j'ai un peu plus de cheveux que lui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Hein, c'est lequel, entre lui et moi, qui a le plus de cheveux? Regardez bien. C'est dur à dire. Hein. Bon, je pense que c'est un peu la même chose. Voilà, il y a quelques semaines, je prenais un temps de prière dans mon bureau, comme ça m'arrive souvent le matin. Et puis, j'ai cette phrase, cette pensée qui m'est venue en tête. Les choses que j'aurais voulu apprendre plus tôt. On pourrait dire aussi des regrets, hein, parfois. Je ne sais pas. Alors, les enfants, en général, quand on est enfant, on n'a pas tellement des regrets, hein, ou parfois des petits regrets. On se dit, ah ben hier, j'aurais bien fait ça autrement. Hein. Après y avoir réfléchi, peut-être je n'aurais pas été méchant avec mon frère, ma sœur, ou peut-être que j'aurais dû réagir autrement. Mais les adultes, et particulièrement les adultes qui arrivent à la fin de leur vie, il y a des choses où voilà, ils se disent, ben voilà, si j'avais pu, si j'avais su, j'aurais fait autrement. Et c'est important d'écouter ça, les enfants, et les grands aussi. Hein, parce que quelque part, pourquoi est-ce que ces gens-là nous disent ces choses? C'est parce qu'ils nous aiment, c'est parce qu'ils ont envie qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs qu'eux. Hein. Un parent qui dit à son enfant, comme sur cette photo-là, voilà, il lui dit, ben voilà, mon enfant, j'ai envie de te dire, ne fais pas ça parce que moi, j'ai fait cette bêtise quand j'étais plus jeune et puis je l'ai regretté. Donc moi, j'aimerais pas que tu fasses la même bêtise que moi. Et les parents qui sont parmi nous, vous le savez, on essaye souvent de transmettre ça à nos enfants. C'est pas toujours facile et on a parfois l'impression qu'on doit passer par les épreuves pour apprendre les choses, souvent. Mais quand même, on essaye. On essaye de transmettre des choses à ceux qui nous entourent et de leur dire, tu sais, moi... J'aurais vraiment voulu faire ça autrement. Et toi, si tu peux, si tu as l'opportunité de faire autrement, ben fais-le déjà maintenant. Hein? Parce que, voilà, comme ça, tu auras moins de regrets. Et il y a des choses comme ça que les gens regrettent souvent à la fin de leur vie, en fait. Et il y a une étude, un livre qui avait été écrit là-dessus, peut-être que vous avez déjà vu ça. C'est un peu les 5 plus grands regrets que les gens avaient à la fin de leur vie. Et c'est vraiment intéressant de voir ça, parce que quelque part, on peut se dire, bon ben... Voilà, s'il y a tellement de gens qui disent la même chose, peut-être qu'il faut que j'écoute et que je me dise, ah, peut-être ça vaudrait le coup de vivre un peu autrement. Un des regrets, c'est de ne pas avoir passé plus de temps avec la famille, les amis. Et c'est vrai que des fois, on se dit, ben voilà, il y a le travail, il y a des activités, il y a différentes choses. On est dans nos sociétés, hein, occupés par toutes sortes de choses. Mais voilà, quand on entend ça, peut-être qu'il faut se dire, est-ce que je passe assez de temps avec ma famille? Est-ce que je passe assez de temps avec mes amis? En tout cas, nous, en famille, c'est une des raisons pour laquelle on a décidé de faire l'école à la maison. C'est parce que, ben, on voulait passer un maximum de temps avec nos enfants. On sait que c'est important. Une autre chose que les gens disent, c'est qu'ils n'ont pas forcément eu le courage de vivre la vie qu'ils voulaient. Ils ont plutôt vécu une vie que les autres voulaient pour eux. Hein, des fois, on nous impose des choses comme ça. Et c'est pas facile, hein, parce que notre société, voilà, il y a des moules, il y a des modèles, et puis on est un peu obligé de rentrer dedans. On n'a pas toujours le choix de faire exactement ce qu'on veut. Mais quand même, on peut se questionner parfois, puis se dire, ben, est-ce que je vis la vie que j'ai envie de vivre? Ou est-ce que je suis en train de subir quelque part la pression de la société qui m'entoure, et puis de faire ce qu'on attend de moi? Voilà,
C'est une question ouverte qu'il faut se poser de temps en temps. Une troisième chose, alors là, ça ne vous concerne pas les enfants. Hein. Y a beaucoup de gens qui regrettent d'avoir travaillé trop dur. Donc, on ne parle pas de l'école, ok ? Attention. C'est bien de travailler dur à l'école, comme ça, après, on peut faire ce qu'on veut. Hein, ouais. Ben, c'est plus facile de choisir un métier si on a bien travaillé à l'école. Mais c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui hein, que les nouvelles générations, mais c'est vrai qu'il y a des générations qui ont travaillé très, très dur. Et puis, voilà, il y avait des raisons là derrière, mais à la fin de leur vie, ils se sont dit, ben, qu'est-ce que j'ai gagné avec tout ça ? Hein ? J'ai passé, je ne sais pas, 50% de ma vie à travailler dur, et je suis à la fin de ma vie, qu'est-ce qui reste de tout ça ? C'est intéressant de se poser cette question. Une autre chose que les gens disent, c'est ne pas avoir eu le courage de dire ce qu'ils ressentaient. Alors peut-être ça peut être ne pas avoir dit « je t'aime » à quelqu'un. Ou peut-être c'est une offense qu'on a gardée à l'intérieur de nous. On n'a pas été dire « bah voilà, tu sais, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait mal. » Et puis on manque une opportunité de rétablir une relation. Il y a tellement de gens autour de nous, peut-être même dans cette salle, qui vivent des années et des années, parfois des vies entières, avec des choses à l'intérieur, voilà, qu'on enterre, qu'on garde, des remords, des choses qui pourrissent à l'intérieur de nous. Hein. Il faut être clair. Et puis, on ne résout pas ça parce qu'on a peur d'aller dire ce qu'on ressent. Alors, bien sûr, il faut le dire avec les bons mots, il faut être bienveillant. Mais est-ce qu'on fait ça ? Est-ce qu'on dit à ceux qui nous entourent qu'on les aime, par exemple ? Et est-ce qu'on va vers les autres pour rétablir nos relations aussi, s'il y a quelque chose qui nous préoccupe ou quelque chose qui a pas été bien. Et puis moi, j'ai aussi quelque chose, voilà, quand je pensais à un regret ou quelque chose que j'aurais fait différemment, une chose que j'aurais voulu faire différemment, en fait, c'était m'engager pleinement avec Dieu plus tôt dans ma vie. Et là, je m'adresse à vous les enfants et à vous les plus grands, parce qu'il n'est jamais trop tard. Salut Jérémy. Moi, je me suis pleinement engagé avec Dieu quand j'avais 27 ans. Et pourtant, je dis souvent, j'ai été chrétien toute ma vie. En fait, je n'ai jamais douté de l'existence de Dieu. J'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai été régulièrement à l'église. J'ai vécu la foi de mes parents, finalement, pendant une bonne période de ma vie. Et c'est normal, c'est souvent comme ça que ça se fait. À 10 ans, j'ai donné ma vie à Dieu pendant un camp. À 20 ans, je me suis fait baptiser. Mais c'est à 27 ans que j'ai prié Dieu et que j'ai dit, voilà, fais ce que tu veux avec moi, je te donne toute ma vie, tout. Alors, après coup, j'ai repris certaines choses, et puis il y a un peu un va-et-vient avec Dieu, des fois on lui donne tout, et puis on reprend un truc, et puis, je te redonne tout, et puis je reprends quand même ça. Mais voilà, et ça c'est un de mes regrets, je me suis dit, ben, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait ça plus tôt ? Parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai pris cette décision, j'ai vécu des choses extraordinaires et ça prendrait tout un culte pour vous les partager, donc je ne vais pas faire ça. Mais vraiment, ma vie a été bouleversée en bien. Et je me dis, ben voilà, si j'avais fait ça 10 ans plus tôt, j'aurais peut-être gagné 10 ans de cette aventure extraordinaire que je vis avec Dieu. Alors après, voilà, il y a des choses qu'on doit vivre à un certain moment donné, on ne peut pas tout maîtriser, hein, on est d'accord, vous le savez. Mais quand même, on peut se dire, ben, qu'est-ce que j'attends pour me donner entièrement à Dieu ? Pourquoi est-ce que je garde des choses ? Pourquoi est-ce que je résiste ? Peut-être que dans quelques années, vous direz, ben, mince, si j'avais su à quel point c'est génial de faire ça, je l'aurais fait le plus tôt. Donc voilà, pour conclure cette petite introduction, j'aimerais vous laisser deux pensées. Les enfants, tout d'abord, sachez que suivre Dieu, ce n'est pas un truc d'adulte. Parce que peut-être que vous dites ça, hein, ben voilà, je suis mes parents, je vais à l'église, je fais un peu comme eux. C'est normal, quand on est dans une famille, voilà, on est dans un environnement et puis on suit un peu ce que nos parents font, on a leurs valeurs, etc. Mais ce n'est pas un truc d'adulte, suivre Dieu. Tout ce que nous, on vit, vous pouvez le vivre aussi. Et puis tout à l'heure, vous irez dans vos groupes à l'école du dimanche, je vais prier pour vous et je prie vraiment pour que vous puissiez connaître Dieu. Ça, c'est mon plus grand désir. Pour mes enfants, j'en ai quatre, ma prière, c'est vraiment que dès leur plus jeune âge, ils puissent connaître Dieu. Hein, moi, je l'ai connu assez tardivement, vraiment, et je prie qu'eux, ils puissent le connaître bien avant, parce qu'ils pourront aller plus loin avec lui, potentiellement. Et puis les adultes, Sachez que suivre Dieu, ce n'est pas un truc à temps partiel. Okay, parfois, comme moi, hein, j'étais vraiment chrétien. J'étais chrétien de mon plus jeune âge jusqu'à 27 ans. Si vous m'auriez posé la question, je vous aurais dit oui, je suis chrétien. Mais je n'avais pas donné le 100% de ma vie à Dieu. Voilà. Je ne sais pas où vous en êtes. 50%, 70%, 80%, 97%, comme le chocolat noir. Hein, des fois, on est très proche du 100%. Mais... Bon, voilà. Question ouverte. Est-ce que vous avez donné toute votre vie à Dieu, l'entier de votre vie? J'aimerais prier maintenant pour les enfants qui vont partir dans leur groupe et puis le groupe monter sur la scène. Seigneur, je te prie pour ces enfants, ces chers enfants que tu nous as confiés. Je prie que tu te fasses connaître à eux dans leur vie de tous les jours, ici à l'église, mais aussi dans leur famille, à l'école. On sait que tu es là, que tu es présent avec nous. Et je prie qu'ils puissent te connaître dès leur plus jeune âge. Qu'ils n'aient pas à attendre autant d'années que moi pour te connaître pleinement et pour te donner leur vie. Alors je les bénis en ton nom. Je bénis aussi les moniteurs qui ont préparé un programme pour eux. Que tu puisses vraiment les accompagner dans tout ce qui va être vécu maintenant. Amen. Alors voilà, les enfants, je crois que vous savez tous comment ça se passe et où il faut aller. Donc, à tout à l'heure. Oui. Va vers maman.
Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais, chantons. D'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Une vie nouvelle, son âme ne dure jamais. Chantons, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais. Chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. À jamais. Thank you. le coup de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance
je viens t'adorer.
ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi.
Bonjour à chacun, à chacune. Très heureux de pouvoir célébrer ce second culte découverte, l'occasion pour nous de partager la foi qui nous habite, de l'expliquer aussi. Un culte, c'est un temps où des croyants, des chrétiens, des chrétiennes se rassemblent pour dire merci à Dieu. Merci pour ce qu'il est. Merci pour ce qu'il fait, merci pour ce qu'il met dans nos vies. On se souvient de ce qu'il est, on proclame sa grandeur, sa bonté, sa fidélité. On s'approche de lui avec des mots choisis, parfois un peu obscurs, mais pour lui dire que nous l'aimons en retour. Il y a quelques semaines, dans le quotidien français La Croix, est sorti un dossier assez remarquable, je dois dire, intitulé « La galaxie des évangéliques en France ». C'est juste à côté. Et franchement, c'est plutôt un bon dossier. Honnête. Loin des caricatures, des clichés qu'on entend, à mon avis, trop souvent sur les évangéliques, dans les médias en général, et hélas, jusque chez certains responsables politiques. On dit et on entend tout et n'importe quoi sur les évangéliques, ou plutôt sur les évangélistes, comme on en parle abusivement. Faut-il le rappeler ? Il y a 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, au début de notre Nouveau Testament, la seconde partie de la Bible. Il y a 4 évangélistes. Et en Suisse, il y a au moins 300 000 chrétiens et chrétiennes évangélique et plus de 600 millions de chrétiens et chrétiennes évangéliques à travers le monde. Mais nous appeler évangélistes, ça permet, je crois, de faire rimer le terme avec intégriste, avec islamiste, avec populiste, avec complotiste, tous des mots en iste qui font un peu peur. Et c'est vrai qu'on a souffert depuis quelques années d'un certain évangélisme politique en provenance des États-Unis ou du Brésil qui ne nous a pas toujours aidés dans notre positionnement dans notre propre société ici en Suisse ou en France. C'est vrai aussi qu'il peut y avoir, y compris en Suisse, des discours ou des pratiques regrettables, voire condamnables, dans certaines églises évangéliques. Mais d'une manière générale, les évangéliques en Suisse sont des gens comme les autres. En fait, ils sont comme vous et moi, respectueux des principes de la démocratie, attachés à la liberté de conscience, attachés à la liberté d'expression, puisque les évangéliques insistent sur l'importance d'une foi personnelle, librement choisie, et des chrétiens et des chrétiennes qui prient même régulièrement pour leurs responsables politiques en place, comme la Bible les y invite. Franchement, il n'y a pas de quoi avoir peur de nous. Alors on peut être agacé par cette image parfois faussée, par les clichés, mais qu'on le veuille ou non, il y a des mots dans la vie qui sont piégés. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à ces mots, mais il faut sans doute les expliquer. Et puis rester vigilant, exemplaire, pour ne pas donner non plus le bâton pour nous faire battre. Et justement, pour cela, il s'agit, à mon sens, de s'attacher à ce qui est essentiel. Et l'essentiel n'est pas l'étiquette évangélique, mais bel et bien l'évangile dont nous nous réclamons. L'essentiel, c'est l'évangile. Mais le mot évangile lui-même n'est-il pas aussi un mot mal compris, y compris chez les chrétiens et les chrétiennes, y compris même chez nous autres évangéliques? Est-ce que le mot évangile n'est pas parfois mal compris? Est-ce qu'on n'a pas tendance à oublier que le mot français évangile n'est qu'une transcription du terme grec, evangelos, qui se traduit très facilement en français. Evangelos, ça veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle qui se rapporte à Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. Je trouve d'ailleurs, personnellement, qu'il vaudrait mieux utiliser le moins possible le mot évangile pour le remplacer par l'expression qui lui correspond en français, bonne nouvelle. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Mais en quoi est-ce que l'évangile est une bonne nouvelle ? Et dans un monde saturé de mauvaises nouvelles, voire de fake news, de fausses nouvelles, comment est-ce que l'évangile peut être pour nous, pour vous, bonne nouvelle? Comment peut-il être une bonne nouvelle, la bonne nouvelle? Pour répondre à cette question, je vous propose de lire un très court texte. On a l'habitude, le dimanche matin, de lire quelques textes dans la Bible, parce que nous considérons que la Bible est parole de Dieu, et donc qu'elle vient nous éclairer. Je propose donc de lire un très court texte tiré de l'Évangile, de la bonne nouvelle, selon l'évangéliste Marc, qui, comme à son habitude, dit en très peu de choses ce qui est essentiel. Marc 1, les versets 14 à 15. Après que Jean eut été mis en prison, Jésus se rendit en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu. Le moment favorable est venu, disait-il, et le règne de Dieu est tout proche. Changez de vie et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus. La première chose que Jésus dit dans notre texte de ce matin, c'est « le moment favorable est venu ». Le moment favorable est venu. Les versions un peu plus anciennes traduisent plus littéralement « le temps est accompli ». Mais le temps dont il est question ici, ce n'est pas le temps qui s'écoule, le grec chronos, c'est l'instant T, c'est le moment favorable, c'est le grec kairos. La bonne nouvelle, c'est qu'avec Jésus, l'instant T de l'histoire de l'humanité est arrivé. C'est le moment de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Jusque-là, on attendait, jusque-là, c'était préparé, et puis il y a la venue de Jésus, l'instant T. Si bien qu'on pourrait presque dire, pour aller vraiment à l'essentiel, que la bonne nouvelle, c'est Jésus. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est Jésus. Il ne faut pas aller voir ailleurs. Le cœur du cœur, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est Jésus. C'est Dieu qui devient homme. C'est Dieu qui nous rejoint. C'est Dieu qui endosse notre condition d'homme, de femme. C'est Dieu qui nous aime. C'est sa vie, son exemple, son enseignement. C'est sa mort sur la croix, sa résurrection. C'est que le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu est là. Quelle bonne nouvelle, Jésus proclamait-il. Elle commence par cette affirmation. Le règne de Dieu est tout proche. Et le grec nous permet de traduire très littéralement le royaume ou le règne de Dieu est là. Tout proche, c'est une façon de dire qu'il est là. Or, le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne. C'est là où sa présence se manifeste. C'est là où sa présence est évidente. Et la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas à attendre l'au-delà pour vivre dans la présence de Dieu. Nous n'avons pas à attendre qu'une vie passe pour vivre dans la présence de Dieu. Nous n'avons pas à nourrir notre vie de regrets et de remords pour découvrir la présence de Dieu. La présence de Dieu au cœur de notre vie, ce n'est pas pour demain seulement, mais c'est pour aujourd'hui, c'est pour maintenant. La vie éternelle, ce n'est pas que la vie après la mort, mais c'est la vie avec Dieu, dès aujourd'hui. La vie avec Dieu, maintenant. La bonne nouvelle, c'est que le royaume de Dieu peut faire irruption dans votre vie. La bonne nouvelle peut faire irruption dans ta vie. Là, tout de suite, la bonne nouvelle peut venir. Tout n'est donc pas figé. Tu n'es pas arrêté, tu n'es pas limité par le point que tu vis à la minute même. Tout n'est pas figé. Tout n'est pas écrit. La bonne nouvelle, c'est pour maintenant. Tout n'est pas figé. Et si tout n'est pas figé, alors le changement est possible. Le changement est possible. Comment l'accueillir, ce changement? Eh bien, Jésus, dans notre texte, dit « Changez de vie ». Et croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie et croyez à la bonne nouvelle. C'est le fameux verbe traduit anciennement par « repentez-vous », mais qui signifie plus largement qu'un moment où on se repent d'une faute, de ses fautes, qui signifie plus largement un changement radical. Un changement de pensée, un changement de compréhension, un changement de vie, un changement de priorité, un changement d'affection. Dieu, je te donne tout, nous disait Thierry tout à l'heure. Alors je sais comment c'est. Ce que Thierry vous partageait, je l'ai vécu 1000 fois dans ma vie. Dire à Dieu, je te donne tout, et puis on reprend un truc. Parce qu'on est fait comme ça. Et Dieu ne nous en tient pas rigueur, je crois. Un changement de vie. Un vrai changement de vie. un changement rendu possible par la foi qui est la confiance en Dieu. Ce que dit Jésus donc dans notre texte, c'est que le changement est possible. Si on croit à cette bonne nouvelle, si on fait confiance à Dieu, si on ose l'aventure de la foi, alors le changement est possible. Et ça c'est une bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est devenu tellement proche qu'il s'installe en nous. Que Dieu vient faire son nid en nous. Ça ne veut pas dire qu'on devient des dieux et des déesses, hein. Mais Dieu vient habiter notre vie. Dieu vient la purifier, Dieu vient la changer. Dieu vient lui donner du sens, de l'épaisseur, une direction. Il s'installe en nous. Dieu veut faire sa demeure dans notre vie. Et croyez-moi, là où Dieu s'installe, tout change. Tout change. Maintenant, avant de conclure, je pose une question, je vais essayer de retrouver mon PowerPoint, on va y arriver, je pense. Hein. Est-ce que, Eric, tu arrives à m'envoyer la prochaine slide? Je crois que j'ai un petit problème sur mon smartphone. C'est pas normal. Merci. Est-ce qu'une nouvelle est toujours bonne? Est-ce que la bonne nouvelle est toujours une nouvelle bonne? Alors, c'est une bonne nouvelle pour tous et toutes. Elle s'offre à tous et toutes. Mais elle risque, si nous n'y prenons pas garde, de perdre de sa saveur pour nous et pour les autres. Et peut-être là, je m'adresse plus à ceux et celles qui avancent depuis quelques années avec la bonne nouvelle, avec l'évangile, avec Jésus. Si nous n'y prenons pas garde, la bonne nouvelle risque de perdre de sa saveur pour nous et pour les autres. Il y a un risque que la bonne nouvelle de Jésus-Christ cesse d'être une bonne nouvelle. Je m'explique. La bonne nouvelle n'en est plus une quand au lieu de présenter une personne, Jésus, elle présente un code de morale ou un corpus théologique. La bonne nouvelle, ce n'est pas qu'on puisse adhérer à une religion, mais qu'on puisse rencontrer par la foi le Christ vivant. La bonne nouvelle n'est pas une religion, c'est une relation. Pour Jésus, croire à la bonne nouvelle, c'est changer de vie, pas changer de croyance, pas changer de religion, changer de vie. Jésus, il n'est pas venu pour arranger les bidons, il est venu pour ressusciter des morts. C'est quand même différent. La bonne nouvelle n'en est plus une quand elle n'est qu'une promesse pour demain, un ticket pour le paradis, un passeport pour l'au-delà. Parce que le royaume de Dieu, il est là. On est dedans. Il est tout proche, il est accessible. Maintenant, Dieu est présent dans notre vie pour qu'on apprenne à ouvrir les yeux, pour que les choses changent. C'est pas juste demain, arrêtez de me vendre ça. C'est super important, l'espérance de la vie éternelle. C'est l'objet de toute ma foi, mais le royaume de Dieu, il est déjà là. La bonne nouvelle n'en est plus une quand elle est réduite à des valeurs et des principes. Parce que la bonne nouvelle, elle concerne notre vie quotidienne. Nos préoccupations, nos luttes, nos défis, nos chutes, nos épreuves, mais aussi nos joies, nos découvertes et nos enthousiasmes. La bonne nouvelle, c'est la vie. C'est la vraie vie. C'est la grande vie. avec et pour Dieu, aujourd'hui et pour l'éternité. Pas des petits principes à deux balles. La grande vie. La bonne nouvelle n'en est plus une quand elle est un message archaïque, qui s'exprime dans un langage dépassé, qui serait compréhensible que par quelques initiés ou appuyé seulement sur des valeurs d'un autre âge. Parce que Dieu depuis le début, il chemine avec l'humanité. Son royaume, il est contemporain et moderne. La bonne nouvelle, elle est pertinente aujourd'hui. Elle doit donc pouvoir se formuler dans un langage clair et moderne, dans des modes d'expression et des supports médiatiques d'aujourd'hui. La bonne nouvelle n'en est plus une quand nos belles paroles sont contredites par nos actes. La bonne nouvelle n'en est plus une quand nos belles paroles sont contredites par nos actes. Ça, c'est notre vie de tous les jours. Et nous avons une responsabilité les uns à l'égard des autres. Vous avez une responsabilité à mon égard. Ce n'est pas juste Célina et moi qui sommes les bergers du troupeau. Depuis Cain et Abel, nous sommes responsables de notre frère, de notre sœur. Si ma vie vous semble contredire mes paroles, vous devez venir me le dire. Peut-être que je dois me repentir, changer de vie. Il n'y a rien de plus décrédibilisant pour l'Évangile que des paroles qui sont contredites par des actes, que des prédicateurs qui disent une chose et en font une autre, que des chrétiens qui prennent des positions et qui, dans leur vie personnelle, font tout autrement. De la cohérence. La bonne nouvelle s'incarne dans des vies transformées par Dieu. Et mon privilège, connaissant depuis 5 ans, c'est de voir combien parmi vous ont des vies où la présence de Dieu est évidente. La bonne nouvelle n'en est plus une quand elle réduit Jésus à un homme exemplaire, à un révolutionnaire pacifiste ou à un théoricien de l'amour. Même devenu homme, le Christ Jésus n'en demeure pas moins le glorieux Fils de Dieu. Sa vie, sa mort, sa résurrection sont uniques, uniques. Ce n'est pas seulement une bonne nouvelle parmi d'autres, c'est la bonne nouvelle pour tous et pour toutes. Il me faut conclure. En fait, pour que la bonne nouvelle de Jésus-Christ reste une bonne nouvelle, il faut que nous l'accueillions. Il faut que nous la laissions nous transformer aujourd'hui même et que ça se voit. Il faudrait que la présence d'une église comme celle de Mérin, mais il y a tellement d'autres églises locales, il faudrait que la présence d'une église soit perçue comme une bonne nouvelle pour une ville, pour la population qui est installée. Qu'on ne se dise pas, purée, ces chrétiens, ils nous cassent les pieds. Parce que si on le dit, il faut qu'on se remette en question. Et il faudrait que la présence des disciples de Jésus-Christ que vous êtes soit une bonne nouvelle pour vos amis, pour vos proches. Il faudrait que l'assurance et l'espérance qui s'y rattachent soient une bonne nouvelle pour un monde qui plonge dans l'incertitude et dans la crainte. Alors je crois que c'est à nous de jouer en fait, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de son esprit, parce que sans Dieu, nous n'y arriverons pas. Craignons pas trop les étiquettes, les clichés, les idées fausses dont j'ai parlé au début, c'est pas grave. Mais vivons simplement et partageons cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et pour vous qui peut-être n'y avez pas encore goûté. Moi, j'aimerais juste vous inviter à ne pas attendre plus longtemps. Ne pas attendre plus longtemps. Thierry nous a parlé de ses regrets et il était pourtant déjà bien en route. Il y a deux choses que je regretterai jamais dans ma vie. Jamais. C'est ma rencontre et mon mariage avec ma femme. Et c'est ma rencontre avec Dieu. Ce qu'il est venu impulser dans ma vie, l'ordre qu'il est venu y mettre, la paix qu'il est venu donner, le sens, l'espérance, l'épaisseur. Alors pour vous qui n'y avez pas encore goûté, moi j'aimerais vous encourager. Laissez pas passer l'occasion. On peut en parler. Thierry et moi, ma collègue Célina, on est à disposition. Laissez pas l'occasion passer. Le moment favorable est venu, disait Jésus. Et le règne de Dieu est tout proche. Changez de vie et croyez à la bonne nouvelle. Amen.
Dans le livre des psaumes, au chapitre 95, au verset 7 et 8, nous pouvons lire ceci. C'est pourquoi, comme dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme Meriba, comme lors de la journée de Massa dans le désert. Il s'adresse là aux Israélites, et puis plus tard, Paul reprendra ça, dans une des lettres qu'il envoie aux églises. C'est pourquoi, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a plusieurs mots ou phrases synonymes qu'on a entendus aujourd'hui. Le moment favorable, l'instant T, le royaume de Dieu est là, maintenant. Je vous invite à un moment de prière. Et puis, je vous invite à écouter ce que le Saint-Esprit vous dit aujourd'hui. Nous savons qu'il parle, j'en suis convaincu. Je le sais parce que il fait ça depuis la nuit des temps. Il aime nous parler, il aime être en relation avec nous. Il aime nous enseigner, il cherche notre cœur, comme un père cherche le cœur de ses enfants. Et aujourd'hui, si vous avez entendu sa voix, d'une manière ou d'une autre, n'endurcissez pas votre cœur. Tout ce qu'il a pour vous, c'est de bonnes choses. Peut-être que vous ne connaissez pas encore ce Jésus dont Philippe nous a parlé. Peut-être que vous en avez juste entendu parler, mais vous ne le connaissez pas personnellement. Et ce matin, aujourd'hui, maintenant, il y a une opportunité de le connaître. Ce n'est pas compliqué, il vous suffit d'accepter qu'il vienne dans votre vie, de dire « Oui, Seigneur Jésus, je veux te connaître, je veux que tu viennes dans ma vie. » Et on peut prier avec vous pour ça à la fin de ce culte aussi. Et puis peut-être que vous le connaissez déjà depuis de nombreuses années, et peut-être que comme chacun de nous, vous avez repris des choses, vous lui aviez tout donné, et puis finalement, aujourd'hui, ben, voilà, il y a des choses qui sont dans vos mains et que peut-être vous sentez que vous devez lui redonner. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que Dieu vous dit ce matin. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est n'attendez pas. Nous tous, moi y compris, nous avons tendance à repousser au lendemain ou à relativiser ou à se dire « Ah, c'était peut-être pas vraiment Dieu qui m'a parlé aujourd'hui. » Et si vous attendez demain, il y a de grandes chances que vous soyez sûr que ce n'est pas Dieu qui vous a parlé. Mais aujourd'hui, saisissez l'occasion qui vous est donnée. N'attendez pas. Si deux, trois veulent prier, peut-être que vous voulez répondre en priant à Dieu, sentez-vous la liberté de le faire. Vu que nous avons des personnes qui sont là pour la première fois au milieu de nous, on ne va pas passer le micro, c'est déjà assez intimidant comme cela. Mais voilà, sentez-vous la liberté de prier maintenant et de répondre au message que nous avons entendu et surtout de répondre à ce que le Saint-Esprit vous dit aujourd'hui. Seigneur Jésus, comme Philippe, je pourrais dire les mêmes choses. S'il y a deux choses que je ne regrette pas, c'est d'avoir marié Rebecca et c'est de t'avoir connu. Tu as tout changé, tout dans ma vie. Et oui, c'est réellement une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle qui rend toutes les choses de la vie faciles. Mais c'est réellement une bonne nouvelle, c'est une espérance et c'est quelque chose pour aujourd'hui. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous cherches, chacun de nous, tu cherches notre cœur. Que nous te connaissions déjà bien ou que nous ne te connaissions pas encore, tu nous cherches sans cesse. Tu nous attires à toi, tu veux nous parler, tu veux entrer en relation avec nous. Saint-Esprit, je prie que tu ne nous lâches pas. Si tu nous as accrochés d'une manière ou d'une autre ce matin, si tu nous as parlé, eh bien, continue ton œuvre en nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les pasteurs, moi-même aussi, nous serons disponibles à la fin de ce culte. S'il vous plaît, venez nous parler. Si Dieu vous a parlé ce matin, d'une manière ou d'une autre, venez prier avec nous. On sera là aussi pour cela, on sera disponible. Et ne remettez pas au lendemain. Il y a vraiment, vraiment un risque à faire cela. Le risque qu'on laisse passer l'opportunité. Donc saisissez l'opportunité qui est là ce matin. Nous allons encore chanter un dernier chant basé sur la prière du Notre Père.
Aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Siècle des siècles, amen. Abba Père, Abba Père, Abba Père. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Voilà, nous arrivons déjà au terme de ce culte. Sachez qu'on se retrouve ici tous les dimanches à 10h. Il y a aussi d'autres activités en semaine. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, venez nous voir et puis on vous en dira un petit peu plus. Je vais prier maintenant pour nous tous. Nous appelons ça la prière de bénédiction, une sorte d'envoi dans notre semaine. Ce lieu est aussi un lieu où on se ressource, où on s'équipe, où on s'encourage les uns les autres pour vivre notre foi aussi tout au long de la semaine. Donc, on peut se lever pour cela. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu es cette bonne nouvelle pour chacun de nous et pour ce monde. Et je prie que tu nous envoies maintenant chacun, que nous soyons porteurs de cette bonne nouvelle dans ce monde, dans notre famille, dans notre voisinage, sur nos lieux de travail ou d'études, Seigneur. Donne-nous des opportunités de partager cette bonne nouvelle simplement, librement, avec ceux qui nous entourent. Et que ton royaume, qui est déjà là, continue à avancer et à s'étendre là où nous sommes, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche et n'oubliez pas de profiter du café.